Je suis très reconnaissant à Lala pour le privilège de vous partager, de partager avec vous la parole ce matin. Dans la providence de Dieu et le planning de l'Église, la semaine prochaine, Jiwan va commencer une série sur la lettre aux Philippiens. D'accord? Et au fur et à mesure, les frères comme Jiwan, Thierry, Gigi et Léandre vont prêcher sur ce livre. Et on va. Et ça soulève une question, parce qu'on ne peut pas étudier une lettre sans connaître le contexte de la lettre. Donc, quand vous pensez à la lettre aux Philippiens, est-ce que vous savez où dans la Bible nous pouvons lire le début de cette église, ce qui est arrivé pour que cette église soit là à Philippi? Qui sait? C'est dans quel livre de la Bible que nous pouvons lire le commencement de cette église?
Dans Actes.
D'accord, c'est dans Actes. Ok. Est-ce qu'on que quelqu'un sait quel chapitre on a? Un peu plus dur. Non, c'est pas 10, mais on n'est pas loin.
16.
16, d'accord? Donc vous pouvez trouver dans vos Bibles Actes 16, parce que si on va étudier la lettre aux Philippiens, ça sera bien de connaître un peu comment cette église a été commencée, qu'est-ce qui est arrivé. On peut connaître un peu les gens qui sont les membres de cette église aussi. Donc, Dieu a utilisé Paul et une équipe d'hommes qui voyageaient partout en Asie mineure. D'accord? Ils se sont partis de leur église et ils sont partis pour faire une chose, c'est pour annoncer une vérité qui était à cette époque-là, comme aujourd'hui, étonnante, difficile à croire et accepter. Et c'est quoi cette... Merci. C'est quoi cette... c'est quoi cette vérité? C'est qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus qui disait qu'il est le Fils de Dieu venu pour sauver les pécheurs. Lui, il a été crucifié devant la foule. Sachant qu'il est mort, ils l'ont mis dans le tombeau. Et 3 jours après, il a été ressuscité. Il a été vu par beaucoup de gens, une fois 500 gens au même moment. Et finalement, Paul, il a eu une rencontre avec ce Jésus ressuscité. Et ça a changé sa vie. Maintenant, il voyage partout. Lui qui était un juif convaincu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Jésus était un faux Messie, un homme qui a dû être tué et ses disciples tués, emprisonnés. Maintenant, cet homme, Paul, voyage partout pour convaincre les gens que Jésus est vraiment le Messie, Dieu parmi nous. Quand il arrive à faire cette œuvre, il voyage partout et en Actes, nous lisons comment Dieu l'a dirigé envers Philippi. Donc, si on veut résumer l'idée, les idées qui se trouvent en Philippiens, j'ai mis l'assurance, l'unité, la fidélité et la joie. Et pendant les mois à venir, pendant une église, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de croix pour voir un besoin. C'est-à-dire,
Il y avait une partie du ministère de Paul parmi eux, mais la relation continue. Ça, c'est un peu le cadre de cette lettre, d'accord? Quand on étudie cette lettre, il faut garder cette histoire à l'esprit, parce que ça va nous aider à comprendre un peu ce que Paul veut dire après. Et vous pensez, ah, ça c'était le sermon? Non, ça c'était l'introduction. Bon, mais on va progresser vite, d'accord? Parce que vous aurez des mois d'étudier à profondeur. C'est juste pour nous donner ensemble l'introduction. L'assurance face à la souffrance. Quelle est la souffrance? La perte de Paul? Bon. Perdre quelqu'un, c'est difficile, mais Paul, quand même, hein, ça, c'est encore difficile. L'unité face aux différences et difficultés. Fidélité face aux faux docteurs. La joie dans toutes les circonstances. Voilà. L'assurance face à la souffrance. Après un début miraculeux, l'Église à Philippi se trouve face à la souffrance. La souffrance de Paul. Quand on aime quelqu'un, quand il souffre, nous souffrons, n'est-ce pas? Donc, cet homme, il est venu avec la parole de Dieu. Il est précieux pour eux, mais maintenant, il souffre, il est emprisonné. Ce n'est pas la dernière fois qu'il sera emprisonné, en fait, juste avant d'être tué. Mais il va être délivré, mais quand même, il est en prison. Déprivé de ses droits, de sa liberté. Et plus que ça, il est persécuté par ceux qui se disent chrétiens. Parce que le verset 17, vous voyez dans vos Bibles, maintenant on est en Philippiens, ok? Philippiens 1, 17, ils disent, il y a des frères, ceux qui se disent frères, qui prêchent l'évangile, mais pas pour annoncer Jésus, pour glorifier Jésus, mais pour rendre ma vie plus difficile. Donc, il est persécuté par ses frères. Ça, c'est dur. C'est une souffrance. Les souffrances, je peux imaginer la question qui arrive. Les souffrances de Paul indiquent-ils que son message n'est pas vrai ou qu'il est plus faible que le monde? Il est arrivé en Philippie en disant, il y a un homme, Jésus, qui est ressuscité, qui est maintenant le Seigneur Jésus, le Messie. Il règne sur tout. Il a la vie éternelle. Il peut vous donner. Et maintenant, moi, son messager, je suis en prison et persécuté. Et on commence à avoir peut-être un peu de doute. Parce que nous imaginons les grands hommes, les grandes femmes maintenant, s'ils nous envoient quelqu'un comme messager qui semble être pauvre, faible, que cette personne, le messager, ne peut pas vraiment communiquer, est-ce qu'on va mettre beaucoup de confiance dans celui qui l'a envoyé? Normalement pas. C'est-à-dire, si vous êtes à la maison cette semaine qui vient et une personne passe et dit, est-ce que je peux... Oh non, je vais dire quelque chose qui est très drôle que je vois parfois aux États-Unis. Il y a des voitures et sur le côté du voiture, il y a une annonce qui dit, on peut... c'est les personnes qui font la carrosserie. Mais la véhicule qu'ils conduisent, la voiture, c'est comme elle vient de la guerre. Ça ne donne pas beaucoup de confiance, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas que je vais appeler cette personne pour s'occuper de ma voiture à moi. La question. Bon, il veut donner l'assurance. Mais il va donner l'assurance aussi parce que l'Église souffre aussi. Le chapitre 1, les versets 28 et 29, il s'adresse directement à eux. Ça c'est plaisir, c'est pourquoi. C'est pas le bon lettre. Philippiens 1, le 28. sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Il y a des personnes qui cherchent à intimider l'Église. Et ils ont des questions parce qu'au verset 12, chapitre 1, il dit « Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Des questions. Donc, après un début miraculeux, l'Église à Philippi se trouve face à la souffrance et Paul veut les aider. Paul les rassure que l'Évangile fait du progrès. C'est le contraire de ce qu'on pense. C'est avec la liberté que nous voyons que l'Évangile fait du progrès. Mais non, en fait, quand il est en prison, l'Évangile fait du progrès parce que maintenant, toutes les personnes autour de Paul savent pourquoi il est là. C'est pour le Jésus. Que le Christ vaut toute souffrance. En chapitre 1, les versets 19, il dit... Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Christ vaut toute souffrance. Que Dieu rendra parfait l'œuvre qui a commencé chez les Philippiens. Ils ont bien commencé cette église. Maintenant, les choses se déroulent. Paul, il est parti, il est en prison. On a des problèmes internes, on a des faux docteurs qui arrivent. Mais Paul dit, je suis confiant que Dieu rendra parfait l'œuvre qu'il a commencé en vous. Que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. C'est dur à accepter ça. Mais le verset 29, il termine le chapitre 1. Il dit, « Cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Et on n'accepte pas trop la souffrance dans cette vie. On aimerait bien que Dieu veut qu'on vive dans l'aise. Ah oui, pas de pression. Jamais de pression. Jamais de problème, c'est ciel sur la terre. Mais c'est pas le projet de Dieu pour nous, parce que c'est à travers les souffrances que nous soyons changés pour être comme Jésus. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous bénit pas, mais la souffrance fait partie de la vie. La bénédiction, oui, on est béni ici. Mais il y a des souffrances aussi. Il faut embrasser les deux. Hein. Ça, c'est l'assurance. Mais l'unité. J'imagine quand l'Église commençait, Lydie, un témoin, comment Dieu a ouvert son cœur. Vous pouvez tous venir à ma maison parce qu'elle était riche. Ensuite, on a cette esclave, cette jeune femme. Oui, j'étais esclave aux démons, mais Dieu m'a délivré. Le gardien, il vient, il dit, mais moi et ma famille, j'étais mort, mais Dieu m'a sauvé. L'unité, parce que Dieu fait des grandes choses parmi nous. Mais ensuite, l'unité peut-être pas facile. C'est un peu comme on se marie, hein, la première semaine, ça déroule bien. Après, ça devient un peu plus difficile d'avoir l'unité, hein, parce qu'on a deux personnes avec deux idées différentes, avec deux façons à faire. C'est normal. C'est normal dans une église d'avoir les difficultés avec l'unité, mais il faut travailler. Donc, Paul encourage l'unité face à la souffrance en donnant un principe au chapitre 2, les versets 1 à 3, et il termine le verset 3, ils disent quoi? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Aïe, ça c'est difficile. Ça c'est très difficile. Mais ça c'est le principe. Après le principe, il nous donne trois exemples. Un exemple est plus important que les deux autres, d'accord? D'abord, il donne l'exemple de qui?
Jésus.
De Jésus. fils de Dieu, Dieu lui-même, partageant la même gloire, mais lui, il devient le serviteur des hommes, le plus bas. Ensuite, il nous donne l'exemple, chapitre 2, le verset 19 et 19 à 23, c'est l'exemple de Timothée. Il dit au verset 20, « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Il pense bien à vous, plus qu'à lui-même. Après, l'exemple d'Apaphrodite. Il va envoyer ce frère, et ce frère, c'est quelqu'un, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Si vous voulez savoir comment avoir l'unité dans cette église, bon, regardez Jésus. Mais on peut aussi regarder les hommes comme Timothée, qui pensent bien aux autres. Et même Apaphrodite, qui était presque mort pour faire le service aux autres. Ouf, c'est un bar très haut, ça. Mais si on veut vivre dans l'unité, ça c'est le principe avec les exemples. Et le but, c'est quoi? C'est intéressant, au chapitre 2, le but, c'est quoi? C'est pour, dans l'unité, on tient la parole de Jésus devant le monde. Parce que dans le monde, ceux qui ne sont pas croyants, ils voient une église déchirée. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'aime pas ça. Est-ce que ça, c'est attirant ou non? Pas trop. Si je veux avoir des problèmes, je ne vais pas m'associer avec une association qui a des problèmes. Hein. Je vais éviter à tout prix de faire partie d'une église où il y a des problèmes comme ça. Jésus nous dit, chapitre 2, 12 à 18, on a l'unité pour avoir, pour tenir la parole de Dieu devant le monde. Et j'ai mis deux passages. Jean 13, Jésus dit, ils vont savoir que vous êtes mes disciples par votre amour. Il dit la même chose en Jean 17, par leur unité, ils vont savoir que je suis venu de toi, mon Père. L'unité, ça vaut quelque chose dans une église. Le but, c'est d'annoncer Jésus. Et il encourage la participation de la communauté. Je pense à ces deux femmes au chapitre 4, que même presque 2000 ans plus tard, on sait maintenant qu'ils avaient des problèmes relationnels entre eux, entre elles. Mais il a dit à la communauté, aidez elles de vivre en unité. S'il y a un problème dans l'église, oui, normalement ça doit être réglé entre deux ou trois personnes où se trouve le problème. Mais s'il n'arrive pas, la communauté doit être impliquée. Parce que la communauté souffre quand il y a un problème entre un ou deux ou trois. Voilà, ça c'est l'unité face à la souffrance. La fidélité face à la souffrance. Paul condamne comme faux ceux qui prêchent un évangile, entre guillemets, qui met l'accent sur notre propre mérite. Chapitre 3. Il arrive, il utilise des mots assez forts. Prenez garde aux chiens. Aïe. Oh. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Ce sont les personnes qui veulent mettre l'accent sur notre propre mérite. Et comment ils luttent contre? Il dit, d'accord, Paul raconte sa propre histoire pour souligner la folie du mérite humain. Lui, il peut dire, si quelqu'un peut mettre leur confiance dans leur propre mérite, c'est moi. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour être juste selon la loi mosaïque. Jusqu'au point où j'ai persécuté les églises comme vous. C'était un homme religieux. C'était un homme pieux. C'était un homme honnête. Selon ceux qui savaient. Et lui, il a dit, finalement, j'ai tout jeté de ça. Parce que j'ai vu que ça vaut rien. Ça vaut rien. Paul affirme la suprématie de Jésus. Jésus vaut mieux que nos mérites. Il dit, d'accord, si on va faire une comparaison entre mes mérites et la grâce de Jésus, de connaître Jésus, tout ce que je faisais, que je pensais c'était très 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 bien, maintenant ça c'est comme le bout, et pire. Ça vaut rien. Et Jésus vaut la poursuite à vie de connaître Jésus. C'est-à-dire, il dit pas, je suis arrivé, je connais maintenant, c'est fini, je suis bon pour la vie. Maintenant, c'est l'apôtre Paul, en chapitre 3, qui dit, la seule chose que je veux, c'est de connaître Jésus, sa puissance, la puissance de sa résurrection. C'est une poursuite pour la vie. On doit être rappelé de ça. Parce qu'on devient fatigué. Hein? C'est dur. Semaine après semaine, j'essaie de lire la Bible, j'essaie de prier, j'y vais à l'église. Oh là là, je suis fatigué. Pourquoi je dois travailler? J'ai des péchés qui sont toujours avec moi. Pourquoi? Je suis fatigué. Et on se décourage. Et pourquoi? Parce que je n'arrive pas. Je le dis, c'est normal. D'accord? Il ne faut pas compter arriver avant que tu arrives au ciel. Il faut être comme Paul. Quand il dit, la seule chose que je veux, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Ça, c'est comment il les encourage d'être fidèles. Les gens arrivent, oh, on a de la bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez mériter la faveur de Dieu. Il dit non, 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 c'est seulement en Jésus-Christ. Restez fidèles à Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut nous sauver. Et la joie face à la souffrance. Le mot joie apparaît 5 fois. Et le verbe se réjouir apparaît 9 fois dans la lettre. Malgré la détention, Paul affirme qu'il prie avec joie. Face à la souffrance, il dit, les frères et les sœurs sont une source de joie. Et c'est quelque chose qu'il faut, il faut lutter avec ça dans nos esprits. Parce que quand nous souffrons, très souvent, la dernière chose qu'on veut faire, c'est d'aller à l'église. N'est-ce pas? Je veux rester au lit. J'ai besoin du temps avec moi-même. Je ne veux pas y aller, c'est trop difficile. Mais Paul, il dit, vous êtes ma joie. Et combien de fois le matin, dimanche, c'est dur, on ne veut pas se lever, mais finalement, on y va, on arrive. Et après le culte, qu'est-ce qu'on dit? Je suis content que je suis venu. J'avais besoin de parler à telle et telle personne. Parce que maintenant, mon cœur est plein. Ça arrive, je ne veux pas vous dire combien de fois ça s'est arrivé dans ma vie. Je n'avais pas envie, mais quand même, à la fin, je suis content. J'avais besoin de ça. Ça, c'est ce que Paul dit. Je suis en prison, mais vous êtes une source de joie pour moi. Face à la souffrance, le progrès de l'évangile nous apporte la joie. Nous venons à l'église, nous entendons parler de comment Dieu a utilisé un frère ou une sœur dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit, je pouvais cette semaine partager la parole avec quelqu'un. Ah, ça m'encourage. Ça m'encourage. Oui, j'ai lu cette semaine qu'en Afghanistan, les églises persécutées, quand même, ils grandissent. Ils restent fidèles. Ça nous encourage, n'est-ce pas? Dans la souffrance, nous nous sommes rappelés que le Seigneur est notre joie. Parce qu'il y a des jours où c'est dur même de trouver la joie dans les frères. On entend parler du fait que l'évangile soit répandu. On n'est pas très ému, d'accord? Mais quand on commence ensemble de réfléchir sur le fait que Jésus-Christ est venu, il s'est offert pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification, il vit pour notre salut, il reviendra pour notre gloire, le cœur commence à être réchauffé, n'est-ce pas? Et on dit, c'est vrai, peut-être j'ai peu d'argent, peut-être les circonstances sont très difficiles, peut-être même mes relations ne sont pas très bien, mais j'ai Jésus quand même. Et lui est pour moi ma joie. D'accord? Ça, c'est un peu ce que Dieu veut accomplir à travers cette lettre. Dans la vie des Philippiens, il y a 2000 ans, mais maintenant, dans nos vies. Donc, comment nous pouvons-nous appliquer, faire l'application? Soyons stables dans l'assurance du Christ. Quand la vie est difficile, on commence à poser des questions. Les doutes arrivent même si on ne veut pas. Dieu, où es-tu? As-tu perdu le pouvoir? Est-ce que tu dors, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais il faut rester stable dans l'assurance que Christ est ressuscité. Jésus vit. Il règne. Restons unifiés dans l'amour de Christ. Quand les difficultés arrivent, bon, c'est un peu comme quand la tension de la vie monte, l'égoïsme monte. Est-ce que vous avez vu ça dans vos vies? Le plus que je suis sous la pression, le plus que je pense à moi. Le plus que je pense à moi, le moins que je pense aux autres. Et maintenant, ça c'est une recette pour le désaccord. Comment lutter contre ça? Ah, c'est l'amour de Christ. Jésus m'aime. Il m'aime les autres. Il veut que j'aime les autres. Restons unifiés dans l'Église. Continuons fidèles dans l'évangile de Christ. Il ne faut jamais oublier que nous annonçons en tant qu'une église locale Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Le salut uniquement par Jésus seul, par la foi seule. C'est notre message. Et finalement, réjouissons-nous dans le Seigneur. La vie est difficile, hein? On ne peut pas nier ça. Mais si nous ouvrons nos yeux, nous pouvons voir toutes les bénédictions que nous avons jour après jour après jour en Jésus-Christ. On est rempli, nos vies sont remplies, comblées avec les bénédictions, uniquement parce que Jésus nous aime. Et nous pouvons être un peuple plein de joie quand nous pensons à Jésus. Voilà. Ça, c'est une petite introduction à cette lettre. Et vous aurez le privilège, pendant les mois après, d'entendre l'enseignement de cette lettre pour qu'on puisse explorer plus ces thèmes que Dieu nous a donnés à travers cette lettre.